mai o kasher viasal. J'ai refusé totalement ce qui.
Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de vie précédente, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bon début de semaine en compagnie de Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI est récomposée avec la prestation des serments jeudi dernier des trois nouveaux membres du bureau. Le président de cette institution, Corneille Nangaa, a déclaré que la priorité de son institution est l'évaluation sans complaisance du processus électoral ainsi que les consultations des parties prenantes avant de fixer les grandes orientations. La communauté internationale, quelques organisations de la société civile ainsi qu'une partie de l'opposition exigent la publication immédiate du calendrier électoral réaménagé. La majorité présidentielle, quant à elle, appelle plutôt la CENI à éviter des décisions précipitées et irréalistes. Comment commentez-vous cette actualité? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines. Mise en onde par Paul Badianyama, Pierre Oilamézi est à ses micros pour la présentation et Berry Franklin Louchaka sur la réalisation, tout dans la supervision de Martin Seboujangwe fidèle. Auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Tout le monde n'a pas la même vision concernant la suite réservée au processus électoral pendant cette période, alors qu'il venait d'être investi. Le nouveau bureau de la CENI à travers son président estime qu'il faudrait aujourd'hui donner la priorité à l'évaluation sans complaisance du processus électoral ainsi que les consultations des parties prenantes avant de fixer les grandes options. Mais plusieurs personnes estiment qu'il faudrait aujourd'hui publier un calendrier électoral réaménagé. Mais la majorité, quant à elle, estime que la CENI doit éviter de prendre des décisions précipitées par rapport au processus électoral. Quel est votre point de vue dans toutes ces prises de parole? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons associé à cet échange le professeur Félicien Kabamba. Professeur, vous êtes du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment d'emblée vous pouvez réagir par rapport à toutes ces prises de position autour du processus électoral alors que le bureau de la CENI venait d'être réaménagé?
Fondamentalement, je crois que la position que vient de prendre le bureau de la CENI est quand même une position assez mérite, parce que les étapes qu'ils ont fixées, notamment l'évaluation de la situation, est une étape extrêmement importante, et cette évaluation du processus électoral doit être une évaluation complète. Il devra notamment statuer sur le cadre légal, sur le besoin en formation, l'enregistrement des électeurs, les questions de financement, le rapport entre CENI et parties prenantes. Donc, il y a là toute une série de problèmes, des questions qui doivent être évaluées, et cette évaluation devra permettre de faire un état de lieu du processus électoral, d'en évaluer les besoins, et cette évaluation devra évidemment d'avoir des éléments qui pourront orienter l'avenir. Mmh. Il me semble bien que c'est une étape capitale. Il en est aussi de l'étape de la consultation des parties prenantes, parce qu'en fait, il faut éviter que le calendrier électoral soit uniquement l'émanation de membres du bureau de la CENI, mais il faudra que ce soit le résultat des consultations de tous les intervenants dans le processus électoral, de sorte qu'il y ait une sorte de consensus, de sorte qu'on mette ensemble l'ensemble des acteurs et qu'on dégage un certain nombre de constances qui pourra être coulée dans le calendrier électoral. Si le calendrier n'est que l'émanation d'une des parties, eh bien, il va être rejeté. Voilà pourquoi il est important que le calendrier fasse l'objet d'une consultation de parties prenantes. De cette manière-là, on pourra évidemment avoir une planification qui aura tenu compte des avis des uns et des autres.
Mmh. Professeur, mais quand on sait que depuis le temps de monsieur le président, l'ancien président de la CENI, monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu, cette question s'était déjà posée, la CENI estimait qu'elle avait déjà publié les calendriers globaux, il revenait aux différents acteurs politiques et formations politiques déjà de se préparer pour aller aux élections. On se rend bien compte aujourd'hui que c'est vraiment difficile, ça est complètement explosé, que ces calendriers soient respectés. Et il y a eu de rencontres entre la CENI, l'opposition et la majorité plusieurs fois sans qu'un consensus soit tiré autour de réaménagement des différentes dates. Et aujourd'hui, il y a une autre question qui s'ajoute, c'est ceux qui pensent qu'il faudrait régler toutes ces questions autour d'un dialogue global. Et dès lors que les uns n'ont plus confiance à la CENI dans cette composition actuelle, est-ce qu'on peut arriver après à jouer un franc jeu alors que les dates sont en train d'être perdues déjà par rapport au processus normal et au respect des différentes gestions telles que fixées par la Constitution?
Alors, c'est là le véritable problème de la CENI. Malheureusement, la CENI n'aura pas que le moyen de politique et donc financier de mener tout le processus au bout. Mais il y a fondamentalement là un grand problème de divergence de vue entre, d'une part, la majorité, qui estime que les délais constitutionnels ne pourront pas être tenus et que donc il faudra jouer donc à la prolongation, mais cela devra être fait au moyen d'un dialogue. Et vous avez la société civile ainsi que l'opposition qui s'en tient à l'horloge constitutionnelle. Donc vous avez là deux types d'horloges. L'horloge de la majorité et l'horloge de l'opposition et de la société civile. Quelle est l'horloge qu'il faut appliquer? La majorité vous dit, eh bien, allons au dialogue et nous allons trouver des aménagements en dehors de la Constitution pour pouvoir avoir un calendrier qu'ils estiment être réaliste. Et donc, de ce point de vue, la CENI se trouve prise en étau. Prise en étau entre des positions qui sont complètement divergentes et entre ceux qui prétendent défendre la Constitution et les autres qui estiment qu'en fait la Constitution, dans le cas actuel, ne peut plus être suivie.
Voilà, on va revenir à vous, professeur. C'est vraiment ça le nœud même du problème, alors que tout se bouscule. De quelle manière on pourra sortir de ces conceptions? Nous avons Félicien qui est ici à Kinshasa, Maurice à Kinshasa, 081-890-6031, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Félicien, vous avez suivi l'horloge, comme disait tout à l'heure le professeur, hein, chacun a son horloge. Quand on a écouté sur le micro des radios Capi après l'investiture du bureau de la CENI et avec la communauté internationale qui estimait qu'il était temps de considérer les priorités qui sont connues, là c'est l'élection présidentielle et les législatives nationales, et quant à ça, on a encore le temps de pouvoir réaménager le calendrier. Il y a aussi une partie de l'opposition qui pense qu'on voudrait considérer cela comme une priorité aujourd'hui, quand bien même la question du fichier électoral se pose. Mais la majorité estime que, bon, c'est vrai, il y a toutes ces questions, tous ces besoins, mais il ne faudrait pas que la CENI puisse prendre des décisions précipitées et irréalistes. Et au-delà de tout, quel est votre point de vue, Félicien, dans tous ces débats?
Bien, merci, Piero. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs, et bonjour à vous-même.
Merci.
Je vous dis que la situation que nous traversons dans ce pays est créée par l'inconstance et le manque de sérieux de la classe politique que nous avons. Cette classe politique, elle voit que ces intérêts, jamais l'intérêt supérieur de la nation, jamais l'intérêt du peuple. Ils font tout ce qu'ils font pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils délèrent et passent, mais ils ne voient pas qu'ils sont en train de détruire, ils sont en train de faire souffrir d'autres personnes. Depuis la Conférence nationale souveraine, un forum qui devait donner des résultats, qui devait faire décoller les pays, ils n'ont pas voulu que les choses sérieuses se passent. Ils sont partis, là, de l'étariser, ils ont refusé de se mettre autour d'une table. Les guerres, ils sont partis à Tom City, ils sont rentrés, rien de bon. Aujourd'hui, constitution. Il n'y a rien de bon dans cette constitution. On veut réviser la constitution. Non, on ne peut pas réviser. On ne peut pas toucher. Rien de bon dans cette constitution-là. Mais on nous souhaite, il se cramponne dans la constitution. Écoutez, Pierrot, si une classe politique veut résoudre un problème, ils doivent savoir qu'il faut se mettre autour d'une table et trouver des solutions. Mais, et ils perdent le temps, et quand le temps est perdu, après ils viennent et ils se mettent autour d'une table. Depuis 2011, on a dit que les élections n'étaient pas des élections, et qu'on devrait se mettre autour d'une table et organiser une transition à un gouvernement d'union nationale. Ils ont refusé de part et d'autre. Personne ne voulait. Tout le monde a gagné, tout le monde doit avoir son impérium, il doit diriger tout ça. Et nous en sommes là aujourd'hui. Dites-moi, quand on demande des calendriers, qu'on publie des calendriers sans évaluation, sans atteindre les critères électoraux avec toutes les faiblesses qu'il y a là-bas. Les problèmes d'enrôlement de nouveaux majeurs, l'enrôlement de la diaspora. Tous ces problèmes-là, on laisse tomber, on publie seulement les calendriers qui ne vont pas respecter, comme on avait déjà publié d'autres qui n'ont pas respecté. Mais tous ces problèmes doivent trouver des solutions par consensus autour d'une table. Qui se mettent autour d'une table, qui trouvent des solutions. Mais ils ne peuvent pas être là, non, allons aux élections. Ceux qui disent allons aux élections, est-ce que leur souci c'est le départ de Kabila ou bien leur souci c'est de prendre le pouvoir? Mais si c'est seulement parti, vous voulez que Kabila puisse partir, mais qu'elle n'offre de la majorité, puisse prendre la place de Kabila, mais qu'on laisse le peuple tranquille, le peuple est fatigué, qu'on ne parle pas au nom du peuple. Il devrait se battre pour la tenance, et c'est le souhait de tout le monde pour qu'on voit qu'il y a la tenance dans ce pays. Il y a la majorité qui a géré hier, il y a l'opposition qui prend le pouvoir, vous qui gérez, on compare, il y a une émulation, et on voit au moins la concurrence loyale qui se fait dans la bonne marche de la République pour l'intérêt des nations. Mais eux, des camps opposés, même quand la majorité a fait quelque chose de bon, l'opposition ne peut pas accepter. Quand l'opposition a dit quelque chose de bon, la majorité ne peut pas accepter. Et ils passent pour tant de temps. Mais entre temps, quand on fait des fausses élections, comme on l'a fait en 2006 à 2011, tous ceux qui sont là, ils vont se faire nommer députés, ils vont manger ensemble, ils vont boire ensemble, mais c'est la masse de la République qui est bloquée, c'est le peuple qui souffre. Aujourd'hui, le peuple n'a pas besoin des élections pour les élections, mais le peuple a besoin des élections où, quand il a voté pour quelqu'un et que cette personne-là, effectivement, dans les élections, parce que cette personne-là a un message qu'il a reçu du peuple qu'il va amener là-bas pour améliorer les vécu quotidien du peuple. Mais qu'on nous amène même pas dans cette histoire-là, c'est qu'en André, il y aura des gens, et c'était cela, on doit dire les vides aux élections. Nous ne sommes pas derrière le pouvoir de quelqu'un qui nous dit il faut vite aller aux élections, mais nous voulons qu'on puisse changer les choses dans cette période, qu'on passe au dialogue et qu'on parle des anti-valeurs. Pourquoi les gens qui vont en politique vont seulement pour leur ventre, pour leur intérêt? Pourquoi la corruption? Pourquoi les anti-valeurs? Pourquoi tout ce qui détruit le pays? Ce n'est pas les élections qui vont trouver des solutions parce qu'on a déjà eu des élections.
Oui, mais quand on regarde aujourd'hui même la question du dialogue, les contenus, tout tourne autour des élections, même ceux qui réclament les dialogues, ils le disent, c'est pour assainir la CENI, c'est pour savoir comment on peut avoir les élections crédibles. Mais aujourd'hui, on se rend compte, vous l'avez dit, que l'intérêt de chacun est ailleurs, c'est d'être tout simplement au pouvoir, d'occuper les postes sérieux. Ne les considérez pas. Pensez-vous vraiment que d'autres voix, qu'elles soient, c'est celle des dialogues, pourra aujourd'hui changer la classe politique pour qu'elle soit une classe politique qui s'intéresse vraiment à l'intérêt de la population? Pensez-vous vraiment que le dialogue soit vraiment une voie pour que la classe politique change aujourd'hui?
On passe au dialogue cette fois-ci pour puisse créer cette condition vérité et réconciliation qu'on n'a jamais eu à la CENI, qu'on n'a jamais eu à Tam City, et qu'on en parle, qu'on parle d'un peu. Pourquoi les gens sont en train de détruire volontairement leur pays? Pourquoi les gens, quand ils sont élus pour eux-mêmes? Pourquoi le pays est stationnaire? On parle d'un peu de ça d'abord. Parce que le problème que nous avons dans ce pays, c'est le problème d'homme. L'homme n'a pas changé. L'homme, il va tromper le peuple. Il va lui donner à boire, il va lui donner des t-shirts. Et là, il achète des bois et il parle pour s'enrichir. Et les trésors publics, c'est pour la force de ceux qui en sont en politique. Et on ne sait pas résoudre le problème de l'ensemble de la population. Ça, c'est une matière importante.
Qui permet aujourd'hui d'aborder
les élections avant les calendriers électoraux.
Pardon. Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez qu'aujourd'hui, s'il faudrait discuter, c'est pas tout simplement aller aux élections, mais c'est d'avoir la moralisation de la classe politique. Et comme ça, on pourra avoir des bonnes élections et que les gens qui seront élus pourront travailler demain pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kinshasa. Maurice, vous êtes dans la capitale. Merci de vous être joint à nous. Bonjour, Maurice.
Je vous salue, Pierrot, je salue aussi l'ensemble des auditrices et auditeurs de la radio Capi qui nous suivent.
Et dans ce débat autour des priorités aujourd'hui, les gens estiment qu'il faudrait, dès que le bureau de la CENI vient d'être installé, qu'on passe à l'évaluation du processus, qu'on ait un calendrier réaménagé, parce qu'il y a les priorités, et c'est l'élection du président de la République et législative nationale. La majorité dit qu'il faut éviter aujourd'hui de prendre des décisions précipitées et irréalistes, voilà. Mais en attendant, des mois et des jours passent et on se rend compte, comme beaucoup d'observateurs, qu'il ne augure que le procès électoral pourra avancer. Quelle est votre prise de position dans ces débats?
Merci de m'associer à ce débat. Je m'interroge d'abord en fait, sur les déclarations, sur en fait, la franchise même des déclarations de M. Nanga, l'actuel en fait, président de la CENI. Qui a dit qu'il va procéder à l'évaluation sans complaisance du processus électoral et il va procéder à la correction de certaines erreurs de son prédécesseur. Et je me demande, en fait, c'est la présence de ceux qui sont partis, donc l'abbé Malomalou et son vice-président, c'est-à-dire là, qui bloquait l'évaluation du processus électoral. Et il était en fait, il faisait en fait objet de la complaisance, parce que lorsqu'il dit sans complaisance, c'est-à-dire qu'il y avait complaisance, il reconnaît quelque part qu'il y avait complaisance dans l'évaluation ou dans même le travail qui devait être fait par la CENI. Et lorsqu'il parle même une sorte de erreur, donc lui qui a participé, parce qu'il a occupé de hautes fonctions dans cette CENI, et aujourd'hui il devient le numéro 1 de la CENI, et il promet qu'il va corriger et il va faire un travail sans complaisance. C'est-à-dire nous pouvons le comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la CENI dans ce pays, c'est vraiment évoqué, c'est un nom qui évoque le malheur du Congo. Parce que la CENI même, à mon entendement, doit disparaître, parce que ça évoque un malheur pour ce pays. Je dois vous rappeler, en 2006, la CENI qui proclame des élections, qui est en fait le président, qui était Malomalou, va proclamer des élections, le résultat plutôt des élections, sur un champ de combat. Et après la publication des élections, vous avez vécu la guerre urbaine en plein cœur en fait, de la ville de Kinshasa, où il y a eu des affrontements, des innocents qui ont péri. En 2011, on a réédité les mêmes exploits. Et heureusement, en 2006, il y a eu quelqu'un honnête, lui-même, à travers vos antennes, a qualifié son œuvre de chaotique. Et il a voulu même dire des vérités dans son livre qu'il préparait et que les Congolais attendent qu'il nous dise la vérité. Parce que nous savons la vérité, celui qui a gagné est bien connu. C'est donc nous n'avons même pas besoin de cette vérité. Ce que je voudrais rappeler, que la CENI doit disparaître, c'est-à-dire qu'on doit réformer cette CENI. On doit la restructurer et la reconfigurer. Parce qu'on ne peut pas comprendre un organe dit ou qualifié de l'autre, bâti à la démocratie, et qu'on trouve à son sein des clivages politiques. On vous dit, la majorité est représentée à hauteur de temps. L'opposition à hauteur de temps, la société civile à hauteur de temps. Et même la procédure ou les mécanismes de désignation est entassé d'opacité et d'irrégularité. On ne sait pas comment ça se fait. Vous avez vu ce qui a été, ce qui a fait la procédure de désignation de M. Malomalou, la désignation de M. Ngoï Moulunga et plus récemment, la désignation de M. Nanga. Et vous avez suivi la déclaration des catholiques. Alors, lorsque déjà les bases sont biaisées, donc on ne peut même pas s'attendre à un travail en fait cohérent, un travail qui sera accepté par tous. Et je me demande, quelque part, comment on peut parler d'un côté d'un dialogue qui doit s'appuyer essentiellement sur des questions électorales. Et de l'autre côté, on parle déjà de la CENI. Et on demande maintenant qu'il vienne, non, il faudra d'abord qu'on procède rapidement au, je ne sais pas, à l'évaluation du processus électoral. Alors, si on doit s'engager sur cette voie. Alors, quelle sera maintenant l'importance pour les bien fondés du dialogue politique qui est souhaité par l'ensemble aujourd'hui, par une majorité écrasante des Congolais? Alors, donc de ce côté-là, je pense, à mon avis, on doit taire parce que la PENI a échoué sur tous les plans. Et elle ne mérite pas d'être en fait considérée ou donner vraiment d'être en fait prête à madurer ou je ne sais pas comment, par l'ensemble en fait, de la population congolaise qui trouve son malheur, comme je disais tantôt, à travers le travail que la PENI nous a produit depuis 2006 jusqu'à à ce jour. Alors, c'est-à-dire qu'il faudra maintenant qu'on attende les dialogues, que les dialogues soient organisés, parce qu'à travers ces dialogues, on doit revisiter toutes les lois portant en fait l'institution des organes, d'appui à la démocratie. Prenons les CETAC, prenons la Cour constitutionnelle, prenons la PENI, ce qui se fait au CETAC, c'est fait à la Cour constitutionnelle.
Maurice, s'il vous plaît, quand vous dites qu'il faut revisiter les lois organisant la CENI, la Cour constitutionnelle, le CETAC, et ceux qui défendent les dialogues disent que c'est un forum qui ne peut prendre que 10 jours, pensez-vous que dans 10 jours, on peut élaguer autant de grandes questions? Et quelle est la place alors de respect aujourd'hui des délais constitutionnels dans tout ça? Parce que la plupart de la population congolaise aujourd'hui souhaite quand même qu'on arrive à respecter les textes qui ont été ce qui est consacré dans la Constitution. Pensez-vous que toutes ces grandes questions peuvent être résolues en ayant 5, 6 jours, 7 jours, 10 jours pour pouvoir refondre complètement toutes ces lois et organiser les élections dans les délais qui respectent les sciences fixées par la Constitution? Maurice, un peu rapidement.
Non, je pense qu'aujourd'hui nous sommes devant une situation. Le chaos est observé, le chaos est réel. Et ce chaos est créé par ces institutions. Alors, on ne doit pas procéder à la réconfiguration, en fait, par rapport au changement des animateurs de ces institutions. Mais on doit d'abord commencer à revisiter certaines lois. Par exemple, ce que je viens d'évoquer ici pour la CENI, comme on parle de la CENI, sans parler, en fait, d'autres organes d'appui à la démocratie. Pourquoi on doit les trouver au sein d'une institution, d'un organe neutre d'appui à la démocratie, de clivage politique, majorité opposition? Ça devient un parlement. Parce que au parlement, c'est la loi de la majorité qui l'emporte sur la minorité. Alors, pourquoi maintenant on doit les trouver dans la même reconfiguration au niveau de la CENI? Ça ne se justifie pas. La raison pour laquelle on dit, au lieu qu'on puisse parler d'abord des individus, comme les individus sont là, on les change, on a changé en 2006, on a changé en 2011, on vient de changer ici en 2015, et ils n'ont jamais produit de résultats escomptés.
Alors vous estimez que aujourd'hui, c'est de revoir les lois qui organisent toutes ces institutions. Merci beaucoup Maurice de ce point de vue. Vous estimez que les bases sont biaisées vu les résultats en 2007-2011. Vous ne pensez pas que dans cette situation on puisse avoir des bonnes élections? Pour vous, c'est un dialogue politique qui doit recadrer les choses, restructurer les organes, et c'est de cette façon qu'on pourra évoluer et avancer. Merci beaucoup Maurice. Fabien, vous êtes à Calémie. Nous sommes avec vous dans cet échange, Fabien, bonjour.
Ah, bonjour Kiro, bonjour à tous, bonjour à tous les amis avec qui nous allons nous échanger ces thématiques d'aujourd'hui.
Voilà, Fabien, pendant que vous vous déplacez un tout petit peu pour améliorer la qualité de votre ligne téléphonique, on vous écoute, Fabien.
En tout cas, merci Kiro de m'avoir donné la participation des antennes des Radio Capi. Ce que nous pouvons dire à ce sujet, c'est que nous sentons qu'il y a un problème sérieux dans ces pays. Chacun tire le drap de son côté, évidemment. On ne sait pas quel jour les bruits cesseront dans ce pays. On ne sait pas également quel jour le Congrès sera sérieux. Et voilà, on a le nouveau président de la CENI, qui est M. Corneille. On doit lui donner le temps de résoudre certains problèmes qui rongent la CENI. Et en l'air de la vie, les problèmes qui mettent en mal la CENI, c'est le calendrier électoral, qui est irréaliste, contesté par tout le monde, bien entendu. Et donc, l'opposition a pleinement raison de dire à la CENI de revoir son calendrier. Souvenez-vous, M. Thiroux, il était prévu qu'on organise les élections des députés provinciaux, mais également les élections des gouverneurs de nouvelles provinces. Toutes ces élections n'ont pas eu lieu, évidemment. Et cela nous prouve en suffisance que le calendrier n'a pas respecté ce qu'il a prévu suite aux différentes irrégularités que connaît actuellement ce pauvre calendrier. La majorité s'est donné le luxe de nommer le commissaire spécial, c'est une violation grave de la Constitution, M. Kirou. Nous devons apprendre à respecter tous la Constitution. Lorsque la CENI dit qu'avant de réaménager les calendriers, il faut consulter la majorité, le procureur et d'autres. D'ailleurs, c'est ce que nous venons à peine de suivre notre invité. Il a en parlé davantage. C'est un travail approprié à la CENI. Ce que nous demandons à cette CENI, c'est de réaménager le calendrier en toute intelligence et qu'il soit accepté par tous les Congolais. Et donc, ainsi, dès ce moment-ci, le calendrier est médiocre qu'il arrive à nous accompagner jusqu'en 2016. Nous allons récolter des morts et des morts, ce qui n'est pas souhaitable dans ce pays, M. Pierrot. Évidemment, quand la majorité s'élève et dit que la CENI ne doit pas prendre des décisions précipitées, cela veut dire quoi, M. Pierrot? C'est-à-dire que la majorité ne veut pas qu'on réaménage le calendrier. Pour elle, le calendrier à l'heure qu'il est bon, c'est nous prendre pour, justement, prendre le Congrès comme des fous. En tout cas, M. Pierrot, nous devons prendre tous nos responsabilités et cela en prélude des élections. Alors, lorsque le calendrier sera accepté par tous, je crois que nous allons organiser une moitié de bonnes élections. Voilà ma petite conclusion, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Fabien. Vous estimez que la question aujourd'hui, c'est la responsabilité de la CENI de pouvoir réaménager les calendriers. Ne faudra-t-il aujourd'hui que la CENI puisse faire l'objet de la confiance au niveau de la classe politique? Aujourd'hui, vous avez Sylvie Maurice qui dit, dans la configuration actuelle de la CENI, au regard de ce qui s'est déroulé du temps du président M. l'abbé Malomalou, et même le changement, il sera difficile aujourd'hui que la classe politique tout entière puisse avoir confiance à la CENI et permettre à ce que celle-ci puisse organiser des élections qui soient acceptées par tout le monde, parce que les bases sont déjà biaisées. C'est ce que pense Maurice, et il y a la méfiance qui s'installe, et dans ces conditions, tout à l'heure, Félicien venait de le dire, le peuple risque de se retrouver à côté, et pour lui, il a même dit que tous ceux qui s'expriment, ils évoquent le peuple, mais en réalité, leurs intérêts sont ailleurs, ce n'est pas au niveau auprès de la population. Merci beaucoup, Fabien. Nous avons aussi Emery Okundi qui nous a appelé, qui est député national de l'opposition. Vous allez garder la ligne, il est temps d'écouter le professeur Félicien Kabamba qui est avec nous comme invité dans cette émission. 081-890-63-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur Félicien Kabamba, vous avez suivi les uns et les autres, les appréhensions, bien sûr, au niveau de la crise des confiances, que ce soit avec l'institution qui organise les élections, la CENI. Il y a bien sûr une large partie, on peut dire ainsi, de l'opposition, c'est qui pense que déjà les lois qui organisent la CENI ne permettent pas qu'elle soit vraiment neutre, parce qu'elle se retrouve entre opposition, majorité, société civile, et dès lors qu'il y a déjà une voix majoritaire au sein d'une institution qui organise les élections, on ne peut pas parler qu'elle est neutre. Et comme le disait Maurice tout à l'heure, que les bases sont biaisées, et aussi la suite du processus risque d'être biaisée, comme on a déploré en 2006, en 2011. Quel est votre point de vue, professeur?
Oui, disons que cette affaire, on avait déjà parlé de ça dans plusieurs émissions de Radio Capi. En principe, la CENI, dans sa conception, a été mise en place pour éviter que ça soit le gouvernement qui soit le pouvoir organisateur des élections. Donc, il fallait chercher un organe neutre. Cet organe neutre, une formule a été trouvée. Malheureusement, la formule qui a été trouvée chez nous est une formule qui ne permet pas à la CENI d'être véritablement neutre dans sa composition, au moins. Parce qu'en fait, sa composition est faite de sorte que les partis politiques, selon qu'ils soient de la majorité de l'opposition, soient partis prenantes. Ce point de vue, il est très difficile qui puisse dégager une quelconque neutralité au niveau de la composition. Et ça, c'est véritablement un échec, mais un échec qui part du fait de la mauvaise conception de la CENI par les acteurs politiques. Et aujourd'hui, il faut assumer ça, et donc il faudra voir comment essayer, au moins dans les opérations électorales, que cette faiblesse ne puisse pas apparaître, mais c'est quand même très très compliqué. C'est quand même très compliqué. Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à une position de la majorité. La majorité, sa position est très claire. Et si vous suivez très bien les propos, le message est clair. Ne faites rien, il faut attendre le résultat du dialogue. C'est pas le message de la majorité. Alors, apparemment,
c'est pour la majorité, c'est du dialogue politique qui viendront des principales orientations. Parce que si vous suivez les discours du président de la CENI, c'est qu'après les consultations, eh bien, ils vont dégager un certain nombre de grandes orientations. Mais si vous suivez les discours de la majorité, les orientations viendront plutôt du dialogue politique.
Oui, professeur Félicien.
Oui, allô?
Oui, allez-y, oui, on vous écoute, oui.
Oui, alors, vous avez là des positions qui sont précises. Et je suis très certain que la CENI va être confrontée à des difficultés pour aller au bout avec son travail de planification, son travail de consultation, son travail d'évaluation.
Est-ce que dans ces conditions, on peut dire aujourd'hui, si on peut se regarder en face et dire qu'au niveau de la classe politique, la majorité est comprise, comme le disait un auditeur il y a dans dans nos émissions passées, que quand il fait l'analyse de la situation, il se rend compte qu'en réalité aujourd'hui, au niveau de la majorité, d'une certaine peut-être partie de l'opposition, les gens ne sont pas prêts pour aller aux élections. Parce que quand on regarde toutes ces prestations, les élections ne sont plus aujourd'hui une priorité pour les uns et les autres.
Bon, aujourd'hui on est en 2015, pratiquement rien n'a été fait. Aucune opération préélectorale, les élections qui étaient prévues n'ont pas eu lieu, même les élections de gouverneur. Alors que les élections de gouverneur ne nécessitent pas énormément d'opérations. Et donc, rien n'a été fait. On va tourner 2015 et tout est remis à 2016. Alors, cela amène différents observateurs à conclure qu'en fait, on ne semble pas voir là des signes évidents d'une volonté d'aller vers les élections de 2016. Et ça, c'est très préoccupant.
Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure que vous avez évoqué les schémas en dehors de la Constitution. Dès lors que la Constitution est comme notre guide, hein, parce que c'est la loi fondamentale qui a été votée, si on peut considérer ainsi, par toute la population. Et si on sort du cadre de la Constitution, alors qu'est-ce qui reste encore dans les éléments, les bases qui ont été posées depuis San City? On peut dire tout à l'heure que de forum en forum, c'est qu'on fait éclater tout et puis c'est la remise en question des institutions elles-mêmes, si on n'est pas en mesure aujourd'hui de se comporter en suivant les lignes tracées par la même Constitution.
Effectivement, la Constitution traduit la vision que la société congolaise a d'elle-même et de son avenir. Alors, sortir du schéma constitutionnel, sortir de principes posés par la Constitution, nous amène à ce qu'on peut appeler l'enlisement du projet démocratique congolais. Ça va être une préoccupation.
081-890-793. Nous avons Emery Okundi, député national de l'opposition. Monsieur Okundi, merci de nous avoir appelé dans cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres depuis le début. C'est vrai que tout le monde ne pourra pas converger dans le même sens autour de ces débats, mais la grande priorité aujourd'hui pour les uns et les autres, c'est qu'on arrive quand même à avoir les élections, qu'on ait des bonnes élections, mais aussi qu'on respecte les échéances constitutionnelles. On estime aujourd'hui qu'il revient à la CENI de pouvoir clarifier les jeux dans les réaménagements du calendrier, mais faudrait-il aussi qu'il y ait un consensus autour de toutes ces opérations qui doivent se faire. Quel est votre point de vue dans cet échange, Emery Okundi?
Eh bien, je voudrais remercier Lamégie. À travers vous, je remercie aussi tous les auditeurs de Radio Okapi. Je crois que ce que l'avait bien souligné, le nouveau membre de la CENI venait de prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Quel est le contenu du serment auquel ils ont prêté devant la Cour constitutionnelle? C'est de respecter la Constitution et la loi de la République. Voilà le mot-clé. Respecter la Constitution et la loi de la République. C'est peut-être une chance que l'actuel président de la CENI n'est pas un novice, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est chevronné de la CENI, donc il connaît l'institution, il était dans le système. Et donc, on n'a pas à arrêter la machine pour évaluer et puis répartir, non. C'est la continuité. La continuité, parce que notre ennemi commun aujourd'hui, c'est le temps.
Et donc, comme nous n'avons plus le temps, il faut aller tout droit au but. Son prédécesseur s'est arrêté là où il fallait qu'on tienne, il a lui-même été témoin, qu'on tienne une tripartite pour que nous puissions harmoniser en ce qui concerne le calendrier consensuel. Vous savez que ce calendrier, dès sa publication, l'opposition a été la première, la dynamique de l'opposition, je veux dire, a été la première à dire que ce calendrier est irréalisable, irréaliste et très contraignant. Et donc, nous avions même fait des propositions. Et nous avions demandé au pouvoir organisateur de se retrouver autour de lui parce qu'il s'agit ici d'une compétence exclusive. Le calendrier électoral est une compétence exclusive que personne d'autre ne peut s'approprier sans toutefois violer la Constitution. Il n'appartient pas au président de la République d'appeler les Congolais pour harmoniser autour du calendrier électoral. C'est une violation intentionnelle de la Constitution qui est frappée d'une infraction politique et appelée de haute trahison. Et donc, comme ils ont prêté serment de respecter la loi fondamentale, la Constitution et les lois de la République, il faudrait maintenant que la CENI puisse déployer tous les efforts à obtenir un calendrier consensuel, à faire en sorte, puisque même l'OIF vient de le prouver, nous l'avions dit, que nous avons un budget électoral corrompu. C'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple est élu, c'est quelqu'un d'autre qui est proclamé. Il faudrait tout de suite là déclencher les opérations liées à l'établissement du nouveau fichier électoral, mon cher ami. Et donc, à ceux qui disent non, il ne faut pas la précipitation, vous savez, ces gens-là sont dans un schéma. Le schéma, c'est ils sont champions d'abord dans les dédoublements des institutions. Vous voyez vous-même comment ils sont en train d'embrouiller en violation flagrante des lois de la République dans les dédoublements des partis politiques pour semer la confusion afin que nous ne puissions pas nous focaliser à l'essentiel. Et donc, il faudrait que nous puissions que la CENI puisse le plus rapidement possible s'appeler à l'essentiel pour que nous ne puissions pas violer la Constitution, puisqu'elle-même a prêté ses membres, ont prêté serment de ne respecter la Constitution et les lois de la République. Et donc, à partir du moment où nous, les forces vives de la nation, verrons que même le pouvoir organisateur viole son propre serment, eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous retourner vers ceux-là qui détiennent de manière permanente le pouvoir public.
Alors, Emery Okundi, il y a des soucis de votre ligne téléphonique, mais on vous garde quand même pour cette question, c'est important. Mais vous avez dit, tout à l'heure on disait, la CENI elle-même, elle est l'émanation de différentes composantes, cela veut dire l'opposition, la majorité, la société civile. Comment aujourd'hui faudrait-il que la même opposition, la majorité, la société civile, qui sont déjà, qui ont délégué leurs membres à la Constitution, puissent encore revenir pour débattre avec la même CENI pour avoir un calendrier consensuel, dès lors que vous reconnaissez qu'il y a qu'elle-même la CENI qui doit sortir ce calendrier. Alors, cette question, s'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse avoir un nouveau fichier électoral, et au même moment, pensez-vous que dans l'état actuel de la CENI, elle soit capable de déployer le matériel à travers le pays, revoir le fichier électoral, le fiabiliser, et au-delà de tout, tenir les échéances électorales dans ces quelques mois pour respecter ce qu'est la Constitution. Pensez-vous objectivement que c'est possible aujourd'hui?
Oui, avant d'en arriver là, mon cher ami, laissez-moi vous dire que la majorité au pouvoir vient de démontrer clairement que la CENI, il ne respectait pas l'indépendance de la CENI. Lorsque l'opposition, moi-même j'ai fait une interpellation contre la CENI, qu'est-ce que nous n'avions pas attendu de la part de cette majorité? Non, la CENI est indépendante, et dès que vous envoyez les membres là-bas, non, ils ne dépendent plus de vous, mais il n'y a pas longtemps, vous aviez vu comment ils ont contraint même une femme de démissionner dans une institution indépendante. ça fait bien quoi? Ça fait bien qu'ils ont contré le président à démissionner, le premier vice, le vice-président a démissionné, et tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité ne respecte rien, et que la majorité veut que la CENI soit totalement à sa dépendance. Mon cher ami, pour arriver à infliger le choral, mais c'est ça le nœud même du problème. Que nous venions de connaître une parodie d'élection auquel vous aviez eu deux présidents qui prêtent serment. Il y a un problème. Et donc, pour éviter ce problème, il faut qu'il y ait un nouveau fichier électoral. C'est là où il y a la machine à tricherie. Le peuple élu, c'est quelqu'un qui est proclamé.
Alors, mais dans ces conditions, Emmanuel, au compte de la dernière question, il y en a qui estiment que. Dans les 10 ans, en 10 ans, et si c'est que vous n'avez pas confiance, il faudrait peut-être reprendre les termes en la CENI, vous estimez qu'elle est à la solde de la majorité, elle est manipulée par la majorité, mais dans ces conditions, comment pensez-vous aller avec la même CENI que vous trouvez être à la solde de la majorité, aller avec elle aux élections et avoir la vérité de ces élections? Parce qu'il y en a qui estiment qu'il faut complètement fondre tout et revenir sur une nouvelle CENI que tout le monde puisse avoir confiance en cette CENI. Mais nous, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, vous m'écoutez, qu'en vous écoutant, c'est comme si on n'a pas confiance à la CENI. Vous estimez qu'elle est prise en otage par la majorité, mais pensez-vous que la même institution que vous estimez être prise en otage par la majorité, vous donne encore à la prochaine des bons résultats? Pourquoi pas les autres pensent qu'il faut carrément la revoir parce qu'on ne peut plus faire confiance à la CENI, on la critique et au même moment on espère qu'elle vous donne des bons résultats.
Mais je l'ai dit sur base de fait. N'aviez-vous pas attendu certains partis de l'opposition demander à ceux qui changent les choses qui sont envoyées à la CENI? Est-ce que cela a été fait? Non. Mais lorsque cette majorité a exigé, a contré le vice-président, a contré le président, le vice-président, la question de la CENI a démissionné, eh bien, le résultat est là. Et ça, tout dépend des hommes aussi. Nous attendons qu'on ait Nanga bénéficie en tout cas des présomptions d'innocence. Vous savez, il vient d'arriver, c'est à lui de prouver qu'il dirige une institution indépendante, une institution citoyenne. En un mot, l'église au milieu du village. Et donc, s'il lui nous prouve cela, eh bien, personne n'aura des doutes. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il ne perde pas le temps, c'est que le temps aujourd'hui est à notre défaveur. Une fois, atteler en tout cas à l'essentiel. Calendrier électoral consensuel, nouveau fichier électoral, respect comme il a prêté serment, respect de la constitution et de la loi de la République, mon cher ami. Parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne pensent qu'à se cantonner au pouvoir
merci, en violation
de la loi de la République.
Et merci beaucoup, Emery Okundi. Vous avez dit, vous attendez, vous, de la CENI. Vous faites encore confiance au nouveau président, estimant qu'il puisse, cela est contenu dans la prestation des serments, respecter la constitution des lois de la République, mais tout en récusant au moins ce qui s'est fait dans le passé. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pensez-vous aujourd'hui, Maître Sonville, qu'on puisse d'un côté récuser le fonctionnement de la CENI et au même moment espérer qu'elle vous produise encore un travail auquel vous puissiez faire confiance dans l'avenir? Ou bien ceux qui pensent qu'il faudrait encore discuter et laquer toutes les imperfections du fonctionnement de l'institution pour lui faire confiance en vue d'avoir des élections qui puissent être acceptées par tous. Maître Sonville, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la Radio Capi. Bonjour aussi à l'honorable Emery Okundji. Pour ma part, M. Pierrot, je dirais ceci. J'espère que M. Nanga, qui est aujourd'hui le président de la CENI, il n'est pas une personne étrangère. Il n'est pas un cheveu dans la soupe à la CENI. Il a vécu tout. J'espère qu'il y a un moment là où la CENI s'est dédouanée. La CENI a démontré du fait qu'elle n'a jamais été financée, contrairement aux allégations du ministre de l'économie. Alors, moi, je ne vois pas comment est-ce que Nanga, M. Nanga, peut encore demander à évaluer les travaux à la CENI. Il était l'enfant de la maison, il connaît tout ce qui se passe. Et cette dénonciation l'a faite par l'ancien comité a coûté même cher à l'abbé Malumalu, à qui on a contraint à démissionner. Ça a coûté même cher aux autres là, au premier vice-président, à qui on a demandé de démissionner par la majorité. Et même moi, j'estime que M. Pierrot, il y a beaucoup à faire au sein de cette CENI-là. Pourquoi ne pas convoquer cette tripartite? Parce que depuis longtemps, il se réunissait avec l'ancien comité exécutif, il se réunissait avec l'opposition, avec la société civile, et avec le pouvoir pour pallier à certaines difficultés. Pour le moment, moi je suis d'avis avec ceux-là, je demande à ceux qui la CENI pour s'élaborer un calendrier le plus rapidement possible, parce qu'on n'avait plus le temps à perdre. Nous estimons que, par rapport d'abord aux élections du gouverneur intérimaire, ça n'a pas eu lieu. Par rapport même l'appel aux candidatures des élections locales et municipales, on ne sait pas quand est-ce qu'on procédera à cet appel-là. Hormis cela, par rapport à ceux-là, les candidats-là, des députations provinciales, qui ont même versé leur caution, on ne sait même pas quand est-ce que cette élection va se suivre. C'est-à-dire que M. Nanga a un défi à relever. M. Nanga et son comité. Et si l'autre parti dit pourquoi à cette précipitation, mais pourquoi aussi cette précipitation-là a nommé M. Nanga, a demandé à la question de démissionner et d'avoir mis à Pierrette au sein de cette commission même. Mais moi, j'estime que si aujourd'hui nous pouvons sauver le pays, nous pouvons sauver le pays de la dérive, là où il est mené par la majorité, nous devons organiser des élections crédibles, inclusives. Mais c'est par rapport à un réaménagement du calendrier, puisque l'ancien calendrier n'a pas été respecté. Toutes les normes n'ont pas été prises en considération pour que ce calendrier soit respecté. Il y a un problème de budget, il y a un problème de respect du calendrier, il y a un problème que l'opposition a posé, il y a belle lurette, la réfrénement de nouveau majeur, il y a un problème de réglement du fichier, puisque nous avons suivi avec une attention soutenue sur votre chaîne, là où l'OIF a rendu son verdict. Par rapport aux fichiers, tout cela, nous n'avons plus de temps à perdre. Si vraiment le comité actuel aime vraiment de la CENI, aime vraiment ce pays, voudrait sortir ce pays de sa torpeur, nous estimons qu'il y a lieu d'aller vite en besoin et d'établir un calendrier le plus vite possible.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Professeur Félicien Kabamba, en écoutant les uns et les autres, que ce soit les acteurs politiques, la population, on veut bien les élections crédibles, mais on ne parvient pas à se mettre d'accord sur les schémas qu'il faudrait emprunter aujourd'hui et les voies et moyens pour arriver à ces élections crédibles. Tout tient compte aussi, comme vous l'avez dit, de l'horloge de chacun et des intérêts de chacun, professeur Kabamba. Professeur Félicien,
d'un côté, vous avez une majorité qui se réveille aujourd'hui et qui constate en fait que nos délais ne pourront plus être tenus. Et il s'appuie pour cela sur les différents rapports produits notamment par Jérôme Bonso et par les experts de l'OIF. Mais vous avez également la majorité de la société civile, disons l'opposition à la majorité civile et de la société civile, qui estime en fait que les nous sommes régis par les textes. Nous ne sommes pas une république bananière, et donc il faut que chacun de nous respecte les textes qui régissent le pays. Et vous avez là des discours vraiment opposés, que la majorité dit, mais parce que nous ne nous entendons pas, allons donc vers le dialogue, et le dialogue va finalement nous donner un compromis auquel chacun de nous pourra être accroché. Donc du coup, vous avez là des schémas qui nous prédestinent pratiquement à la crise. Mais il ne faut pas que le pays s'enlise dans la crise. Il faudra trouver des solutions. Et la CENI, avec le bureau actuel, est dans une difficulté certaine. C'est une difficulté qu'elle n'a pas créée elle-même, mais une difficulté que lui offrent aujourd'hui les différents protagonistes de la politique congolaise. Je parle de la majorité et de l'opposition. Et donc, il faut absolument qu'une solution soit dégagée rapidement. La CENI est un acteur majeur du jeu électoral. Elle doit jouer son jeu. Mais il faudrait également que les facilités lui soient accordées par les différentes parties prenantes, et j'ai parlé là de la majorité et de l'opposition. C'est de cette manière-là que la CENI pourra faire un travail qui soit apprécié par les uns et par les autres. Faire le contraire, je ne vois pas comment la CENI. On peut changer plusieurs membres du bureau, mais si au niveau de la classe politique, il n'y a pas un accord sur la manière de gérer le processus électoral, eh bien, la CENI ne pourra pas faire un travail qui pourra plaire aux uns et aux autres.
Professeur, mais quand on est sorti des élections de 2011, il y a l'UDPS par exemple qui estimait qu'il fallait déjà entamer les discussions, les dialogues, en estimant qu'il y avait une crise politique. On se rappelle bien, nous avons eu plusieurs émissions où les acteurs de la majorité nous disaient non, mais il n'y a pas de crise politique, on ne voit pas la raison pour laquelle il faudrait aujourd'hui dialoguer, discuter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est tous bousculés par le temps. Est-ce qu'il y a ces discussions qui se déroulent aujourd'hui pouvaient être tenues après les élections de 2011 pour baliser les schémas, et ça nous aurait peut-être facilité la tenue des autres élections et surtout d'asseoir ces bases de la démocratie, professeur Kabamba.
Oui, alors là vous avez une conception du dialogue de la majorité qui est en fait une conception événementielle. Pour la majorité, le dialogue doit être un forum. Le dialogue doit être un événement d'ailleurs isolé. Et pourtant, dans la conception de la démocratie, le dialogue ne doit pas être un simple événement isolé. Ça doit être une culture. Le dialogue doit être un processus permanent. Depuis longtemps, il fallait instaurer ce dialogue entre les différentes parties prenantes du jeu politique congolais. Et alors, on s'est rendu compte que depuis 2011, faute d'avoir instauré le dialogue avec les autres parties prenantes, aujourd'hui, la majorité semble se réveiller et dire, mais en fait, on se rend compte qu'on est dans l'impasse, entendez-nous. Est-ce que ça, le dialogue, la question, il faut la poser à la majorité.
Et d'ailleurs, je me rappelle bien, il y a eu des concertations nationales, les gens ont souhaité un forum très très élargi, et la majorité disait en son temps que le dialogue est déjà instauré dans les institutions, il y en a qui disent dans les institutions, c'est là où se doivent se dérouler les dialogues, mais aujourd'hui, on y va en dehors de ces institutions, ce qui donne aux uns aux autres les impressions, et surtout, on peut dire qu'on se prête les intentions quant à la volonté est réelle de pouvoir aller au bout avec les processus, avoir des élections et assurer l'alternance.
Oui, disons que il y a là des rectifications à faire. Moi, j'ai toujours été optimiste sur le fait que le Congolais ont la capacité de surmonter les crises. On a connu des crises plus grandes que celles d'aujourd'hui. Il y a moyen que les différentes parties prenantes s'entendent sur, et surtout maintenant sur le calendrier électoral. Parce que les élections ont toujours constitué le moment crucial dans les démocraties africaines. Les élections sont issues généralement de violences. Or, le dialogue est un moyen de préservation, ou si vous voulez, un moyen de prévenir les violences et les crises. Faute d'avoir entretenu le dialogue, faute d'avoir instauré une véritable culture de dialogue, donc une véritable culture de dialogue avec les autres parties prenantes, on en est là aujourd'hui à l'impasse. Il faut absolument trouver des solutions et des solutions durables.
On va écouter le dernier auditeur, je crois bien, c'est William, s'il y a peut-être un autre qu'on va ajouter, mais en attendant, nous avons William qui est à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. William, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à Radio Kati, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, par rapport au sujet du jour, je soutiens l'idée de l'invité, un aspect qui parle autour de ces horloges qui sont présentées. D'un côté, ils parlent ceux qui soutiennent les dialogues et à leur glissement, et les autres soutiennent modifier pour la tenue des élections en tenant compte de la Constitution. Moi, je soutiens cette idée de tenir compte des échéances. Pourquoi? Parce que la majorité avait tout le temps de s'organiser et de préparer ces élections. Ce n'est plus le moment pour la majorité de dire au peuple congolais que voilà, vous nous donnez encore le temps pour que nous puissions nous organiser et organiser des élections apaisées. Pour votre gouvernement, monsieur le journaliste, lors des élections de 2011, il y a eu le code de bonne conduite qui était signé par tous les partis politiques, toutes les personnalités politiques de la RDC Congo, pour que les élections se fassent dans un climat apaisé. Mais vous avez vu le résultat vous-même, et c'était juste une élection chaotique et qui est partout, et au niveau national, et au niveau international. À mon humble avis, à l'heure actuelle, il était question de laisser à la CENI le temps qu'il lui faut, de s'organiser et de lui donner les moyens qu'il faut. Et à part ça, il faut que la majorité évite des injonctions au niveau de la CENI, parce qu'avec les pressions que les gens de la CENI sont en train de subir, quelque part, ils ne travaillent plus dans leur indépendance. Alors, pour ce qui est de l'UDPS qui voudra à l'aise le dialogue. On ne refuse pas le dialogue, pourvu que ce dialogue nous amène
au respect de la Constitution. Mais si c'est un dialogue qui est là pour le passage du pouvoir, comme pour leur esprit, si je suis en train de les constater, le poste du premier ministre, c'est comme si c'était un poste coutumier qui devrait toujours être réservé à la Ligue des Peuples. Alors que un parti politique, son souci est de construire le pouvoir. Donc, il n'y a qu'une seule année qui nous reste, qui ne sait pas d'être, c'est la fin du mandat de l'État.
Voilà, et là vous estimez William, que s'il faudrait qu'il y ait un dialogue, que ces dialogues n'aboutissent pas au glissement à un gouvernement de transition pour faire capoter, je crois bien, le pacte signé entre la population et la Constitution. Mais là, vous avez quand même relevé un élément, vous avez dit que le gouvernement, qui est issu de la majorité, avait tout le temps de pouvoir préparer les élections, de pouvoir le financer. Et c'est pas aujourd'hui que le gouvernement pourrait dire encore à la population que voilà, donnez-nous le temps pour pouvoir préparer les élections apaisé parce qu'il y a eu tout le temps de pouvoir les financer. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup, William. Nous avons deux messages ici. Fabrice et Barthazar qui nous a écrit, dit ceci: toutes ces tractations ne rassurent pas. On pense qu'il y a une main qui a poussé le président et le vice-président de la CENI de pouvoir démissionner tout cela pour amener à la nouvelle équipe le temps de se préparer et ainsi faciliter les glissements. Chouk Mouigui Roi de Lubumbashi dit ceci: la CENI peut bien faire sa part, mais le plus grand problème, c'est le gouvernement qui a l'obligation de mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour qu'elle puisse remplir sa mission. Et de ce côté-là, nous voyons que le gouvernement ne l'a pas fait pour faciliter à CENI son travail. On revient à vous, professeur Félicien Kabamba, en 30 secondes pour conclure cet échange.
Non, mais je crois que là, il n'y a plus suffisamment de temps pour les élections. Il faut que le peu de temps qui reste soit mis à profit. Et c'est là qu'il faut lancer un message vibrant aux dirigeants de la CENI pour qu'ils puissent très rapidement faire le travail que le peuple congolais attend d'eux. Il s'agit pour ma part d'un travail important qui pourra servir de prévenir les violences. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2006 après l'élection, il faudra absolument que l'équipe actuelle ne porte pas le chapeau des violences à venir.
Merci.
Qui pourront découler de la mauvaise organisation de l'élection.
Merci beaucoup, professeur Félicien Kabamba. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à tout le monde.
Allô? Mais il ne répond pas?
C'est la fin de cet échange. Merci à Véry Franklin Luchaka qui a assuré la réalisation et les standards de cette émission, mise en onde par Paul Badianyama. Pierrot et la Mélie, je vous la présentais sous la supervision de Martin Seboujang. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.